Merci beaucoup Jean-Michel pour ces réflexions qui ont fait écho à des choses qu'on a dit hier et puis beaucoup de choses qu'on va discuter aujourd'hui les uns et les autres. Donc on va laisser poser tout ça et puis je vais donner la parole à la prochaine table ronde. Donc une table ronde qui va poser la question que tu as soulevée Jean-Michel, comme tu le disais, de ce fameux terme de recherche dont on parle finalement, on l'évoque depuis hier, et puis on n'en a pas encore discuté, donc on va prendre ce terme-là à bras-le-corps. Donc j'invite Alix de Morant, Valentine Lossau, Quintin Quétez et Olivier Espel, qui vont donc discuter ensemble, et bien sûr aussi avec vous en fin de table ronde, de cette question-là, et de ces pratiques-là, surtout ces pratiques de recherche. Donc Alix, je te laisse aux commandes et je te laisse aussi gérer donc, le temps en gardant un temps, si on peut, à la fin pour, je suis sûre, accueillir les questions qui seront nombreuses.
Eh bien, d'abord, je voudrais remercier Jean-Michel pour, pour les prospectives qu'il place devant nous ce matin et qui, j'espère, vont rebondir aussi au cours de cette table ronde, parce que dans les questions qu'il a posées, et notamment dans cette question du dialogue, je pense que l'une des thématiques de cette table ronde, de cette matinée, va être justement cette question du dialogue. Et là, je parle en tant qu'enseignant-chercheur et de la volonté aussi qu'il y a d'engager aussi de nouvelles formes de collaboration, aussi bien sur le terrain de la recherche scientifique que sur le terrain de la pratique artistique entre des chercheurs et des artistes, mais que cette question de la recherche est une question ouverte et qu'elle nous concerne tous ici présents. Et d'ailleurs, je voulais justement commencer par remercier les organisateurs de ce think tank, Think Circus, qui ont pensé à nous rassembler dans ces journées comme des chercheurs, des artistes, des porteurs de projets, et qui ont aussi confié à une chercheuse, Agathe Dumont, pour ne pas la citer, elle-même dans sa recherche à l'articulation de différentes disciplines, le cirque et la danse, mais aussi présente sur différents terrains de recherche, de la pédagogie à la pratique artistique, l'organisation de ces journées. Et on retrouve d'ailleurs dans le programme tel qu'il a été pensé, à la fois le collectif des chercheurs en cirque, qui est très présent puisque nous sommes un certain nombre aujourd'hui à parler ou à coordonner ces tables rondes et ces prises de parole, le programme cirque de l'université de Montpellier 3, donc du RIRA 21, que dirige Philippe Goudard et auquel j'appartiens et avec lequel je développe des recherches, mais aussi des praticiens, des artistes, des institutions qui partagent ce même intérêt pour la recherche et qui ont décidé de se positionner en tant qu'expérimentateurs, tous attirés par cette question qui est celle de l'investigation et d'un temps pour chercher, pour comprendre, pour essayer aussi peut-être de mettre au point des méthodologies susceptibles de nous aider à saisir et à comprendre des réalités qui sont complexes et fugitives. Voilà. Donc je salue aujourd'hui le caractère fédérateur de cette initiative qui fait fi des clivages pour nous réunir sur cette question justement du partage du savoir et aussi du partage des méthodes. Parce que en recherche, je pense que le plus important aussi, c'est la méthode. Voilà. Donc je ne vais pas revenir vraiment sur cette question de la recherche en art et de l'artiste-chercheur, parce que je pense qu'on va la déployer au cours de ce moment. Mais je voudrais quand même rappeler une maxime de Kandinsky dans le livre « Points, lignes et plans » qui est la suivante. « La théorie suit la pratique, mais ne la précède pas. » Cette phrase sert aussi de point de départ à une analyse sur la recherche-création qui est celle de Pierre-Luc Landry et qui a publié récemment un article qui s'appelle « L'artiste universitaire, l'artiste théoricien vers un paradigme artistique de la recherche-création ». Dans cet article, il dit la chose suivante, et je partage complètement son point de vue. La recherche requiert une certaine méthode qui est différente de celle de l'art, mais qui peut tout de même émerger de la pratique d'un artiste en particulier. et celui-ci se fera alors philosophe, chercheur, théoricien. On pourrait rajouter ici que cette affirmation implique aussi des délimitations spatiales et temporelles et qu'il n'existe de recherche que située. Nous verrons comment, d'ailleurs, grâce à mes différents interlocuteurs de la matinée. Ensemble, donc, ici, avec les intervenants qui vont prendre la parole et vous, dans cette salle, j'espère que nous parviendrons à nous mettre en état de recherche afin de nous demander comment nous pouvons, dans nos espaces, dans nos vies, dans nos méthodes, approcher cette question de la recherche et que nous puissions affirmer transversalement, au travers des pratiques, qu'elles soient scientifiques ou artistiques, une question qui, pour moi, est très importante, qui est aussi celle de s'autoriser l'incertitude. L'incertitude sans autre objectif que chercher. Voilà pour le préambule. Je vais maintenant présenter mes différents intervenants. J'espère que je vais les présenter bien, et sinon qu'ils me corrigeront. Donc à ma gauche, Olivier Espel. Olivier est critique et dramaturge indépendant pour la danse et pour le théâtre. Il habite à Bruxelles. Il travaille principalement à L'Aile, qui est un lieu de recherche et d'accompagnement atypique. Alors le mot accompagnement, on le mettra peut-être en débat suite à ce qu'en a dit Jean-Michel tout à l'heure. Donc ce lieu de création, L'Aile, que dirige Michel Braconnier depuis 2008 et qui est une structure qui offre justement aux artistes du temps et une bourse pour chercher. Donc c'est une démarche singulière, unique en son genre. Et dans ce lieu, les artistes travaillent sans obligation de résultat ni de limite dans le temps, mais avec un protocole rigoureux de soutien et d'accompagnement artistique en respect d'un engagement réciproque. Donc on vient à L'Aile pour développer la potentialité de sa recherche, mais on trouve là aussi un dispositif dédié à la recherche dans une structure qui l'encadre. Donc c'est aussi pour moi la manière de montrer que nous allons aussi avoir autour de cette table différentes positions. La mienne en tant qu'enseignant-chercheur, la vôtre en tant que critique et dramaturge, parce que je pense que dans l'activité critique et dans l'activité dramaturgique, il y a aussi une activité de recherche qui se met en route, mais aussi, là, vous allez parler au nom d'un lieu et au nom d'un lieu spécifique. Quintaine Kettles est acrobate, il est sorti diplômé de l'ESAC. Il a multiplié des expériences en collectif, notamment avec Hopla Circus et avec une compagnie de théâtre de rue, la Familia Rodriguez. Et puis, vous avez monté un espace pluridisciplinaire où se rencontrent aujourd'hui le cirque, le théâtre, la danse et les arts visuels qui s'appelle Sideshow. Donc, Sideshow, dont le nom, évidemment, s'inspire des cabinets de curiosité qui jouxtaient les cirques au début du XXe siècle, et notamment plus particulièrement aux États-Unis, où cette pratique était très répandue. Et puis, vous avez, vous, porté de façon, je dirais, autonome, individuelle, en tant qu'artiste, un désir de recherche, et vous vous êtes organisé pour mettre sur pied un laboratoire qui s'est appelé « From A to B », et qui a inauguré une série de 10 résidences pendant l'année 2015-2016, donc en gros une année de recherche entière, en invitant des artistes de différentes provenances à expérimenter dans un laboratoire où vous vous autorisiez le droit à l'erreur. Donc on va partir justement aussi de cette expérience et aussi de ce que vous avez pu justement mettre sur pied pendant ce temps particulier. Et enfin, je me tourne. Vous avez vu la parité, ça y est, on y est, autour de cette table, c'est bien, elle a été respectée. Valentine Losso, donc Valentine, vous êtes à la fois anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales, magicienne et dramaturge. Vous avez, avec Raphaël Navarro et Clément de Bailleul, initié le mouvement artistique de la magie nouvelle. Vous menez des recherches sur les pratiques de la magie dans le monde et plus particulièrement dans les sociétés mayas du Mexique avec les magiciens de rue en Inde. Vous êtes aussi depuis 2009 associé au Centre d'études mexicaines et centre-américaines à Mexico Et en tant que membre de la compagnie 1420, vous êtes aussi dramaturge et vous vous appuyez justement sur vos savoirs d'anthropologue aussi pour aborder cette question de la dramaturgie. Donc vous travaillez avec la compagnie 1420, mais pas seulement, vous êtes aussi associé au spectacle de la compagnie Monstre d'Étienne Saglio et L'Absente de Yann Frisch. Et vous êtes également l'auteur de divers articles scientifiques, d'un ouvrage avec Michel Butor. Donc vous avez beaucoup de terrain de recherche et peut-être vous allez donc nous parler de cette possibilité aussi qu'on peut avoir de se déplacer de son propre terrain de recherche pour en investir un autre. Voilà, donc vous voyez, les parcours sont riches, ils sont singuliers aussi et ils sont divers. Donc j'ai demandé à chacun d'entre vous, et ça va être le point de départ de la discussion, de situer sa recherche en définissant ce que vous entendiez par le mot recherche, parce qu'il me semble effectivement, comme le disait très bien Jean-Michel Guy, qu'il y a une question de sémantique et de langage qui se joue, qui est extrêmement importante. Donc, en employant ce terme recherche, on peut faire effectivement appel à différentes fonctions de la recherche, à différents statuts de la recherche, qu'elles soient spéculatives, fondamentales, expérimentales, appliquées, qu'il s'agisse d'une recherche en art, d'une recherche en sciences humaines ou d'une recherche en sciences dures. Donc ce qui m'intéresse là, c'est aussi justement comment le vocabulaire évolue, comment il est tordu aussi, réinterprété, réemployé dans vos expériences personnelles. Donc, vous allez, Olivier, peut-être aussi nous parler de la naissance du projet de l'aile, mais aussi de ce dictionnaire à la recherche qui a été récemment publié et qui donc présente la recherche et l'expérience de l'aile, mais justement au travers d'un certain nombre de termes choisis, comme le terme cadre ou le terme accompagnement. Et puis ensuite, je vous donnerai la parole à vous aussi sur votre propre définition.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le terme accompagnement, par exemple ?
Bien. Ou parler peut-être déjà de votre définition de la recherche, celle que je vous ai demandé de me spécifier, et puis peut-être en vous appuyant sur l'expérience concrète de l'aile.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un terme recherche, je pense que tout le monde, quelque part, est en recherche, j'ai l'impression. C'est ce qu'on peut appeler l'introspection, la remise en question de soi, pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Et c'est vrai qu'un artiste, d'une certaine manière, il est en perpétuelle recherche, moi, je pense, comme n'importe quel être humain. À l'aile, la spécificité, c'est qu'on ne vient pas entamer un processus de recherche pour produire un spectacle. On vient pour creuser plutôt des enjeux qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'écriture, donc de l'ordre de, quelque part, de sa personnalité artistique, ou se déplacer en tant qu'artiste pour explorer d'autres espaces de légitimité, si on veut, d'écriture en tant qu'auteur. D'autres espaces de légitimité que ce que la formation nous a offert, que ce que son CV, son parcours d'artiste nous a offert. Voilà, ça c'est un peu quelque part cette définition-là. Alors on pourrait, vous m'aviez posé effectivement la question, vous avez dit, bah, du coup, on fait de la recherche fondamentale appliquée, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de... Je vous parlais d'introspection, oui, il y a quelque part un exercice d'introspection qui est offert, ou un espace en tout cas, mais avec plateau. Et c'est pour ça que j'avais parlé de fondamentale appliquée, fondamentale parce qu'elle est en dehors de tout objectif de résultat, d'où ce terme fondamental. Et puis appliquée parce qu'effectivement, elle se fait au plateau. Alors il y a... On a défini avec le temps, hein, parce que donc, l'aile existe depuis 25 ans, mais effectivement depuis 2008, c'est strictement un espace d'accompagnement à la recherche. Ce protocole qu'on a appelé protocole précisément, donc peut-être justement pour un peu insister sur le terme recherche, en dehors d'un espace de productivité. On a plus ou moins dessiné une méthodologie qui se remet en question en fait assez régulièrement. Et donc aujourd'hui, elle est en tout cas, elle s'articule autour de quatre piliers. Il y a la question du temps, la question de l'espace, la question, c'est une question qui fonctionne en tandem, c'est la solitude et l'accompagnement, et puis la question des moyens. Alors la question du temps, non-obligation de résultat, bon, ben, ça, le terme est assez clair, donc c'est-à-dire que quand on arrive à l'aile pour une recherche, il n'y a pas de finalité, donc il n'y a pas, on dit voilà, dans un an c'est fini, dans deux ans c'est fini, non. Ça ne se dit pas, en tout cas, à l'arrivée. Il y a une régularité dans le travail. Ce sont des résidences de 2 à 3 semaines, 4 fois par an. 2 à 3 semaines parce qu'on a remarqué que, voilà, bon, généralement, en fait, aujourd'hui, on offre plutôt des résidences de 5-6 jours. C'est juste à peine le temps de ce que Michel Braconnier dit, on dépose ses valises, quoi. Donc 2 semaines, c'est le minimum, en fait, pour pouvoir vraiment rentrer dans un processus de recherche. Et puis 3 semaines, pourquoi maximum 3 semaines? Mais pour ne pas, pour rester dans l'esquisse, en fait, pour ne pas aller dans la construction d'un objet. Et après, il y a une régularité avec ce qu'on appelle un temps de jachère, donc du terrain de la recherche, qu'on met en jachère d'un mois et demi à 3 mois maximum entre chaque résidence. Pourquoi ça? Ben, pour avoir à la fois le temps de décanter, avoir le temps du recul, mais en même temps, pas trop de temps non plus de recul pour que le fil ne se coupe. D'où cette idée d'un mois et demi à 3 mois. L'espace, ça c'est fondamental aussi. Alors, ce qui est important, donc, la recherche, c'est quand même essayer de se déplacer. Et bien du coup, alors on le prend au pied de la lettre. D'une résidence à l'autre, on n'est jamais dans le même espace. Tout ça, mais pour justement ne pas se remettre dans le même cadre dans lequel on a été plongé dans la résidence précédente. Et donc, ça permet aussi, quelque part, de revoir un peu les paradigmes de sa méthodologie de travail. Mais revoir l'espace, un autre espace, c'est aussi peut-être aussi un autre champ d'imaginaire possible. Alors, la question de la solitude, ça, c'est une question qui chiffonne beaucoup. Quand on nous dit ça, quand un artiste veut rentrer à l'aile, non, tu ne viens pas avec une équipe, tu viens seul. Ça n'a pas été le cas au début, c'est arrivé un peu il y a à peu près 4 ans en fait, qu'on s'est dit la solitude en fait, est nécessaire. Pourquoi ? Justement pour se déplacer. On est dans un espace de travail, les arts de la scène, qui est plutôt un espace de travail d'équipe. Donc se déplacer, c'est peut-être aussi se retrouver seul. C'est-à-dire se trouver seul à répondre à des questions assez vastes, mais avec ses propres outils. Donc éviter ce qu'on appelle des béquilles. Ces béquilles, ce n'est pas une question uniquement de collaborateurs, mais c'est aussi une question technique. Les premières résidences, souvent, on demande à l'artiste de ne pas utiliser aucun élément technique, donc artifice d'un plateau. Donc cette question de la solitude, c'est voilà aussi, ça permet aussi de se déplacer parce que d'ouvrir aussi d'autres portes de légitimité d'écriture, puisqu'on est le seul. Un chorégraphe du coup va peut-être se permettre d'écrire, se permettre de parler, se permettre de peut-être de faire de la musique aussi, se permettre de jouer avec de la vidéo à un moment donné dans le parcours, parce qu'effectivement au début la technique est out of space, mais il se peut effectivement qu'au niveau des enjeux d'écriture, à un moment donné la question de certains outils techniques devient quelque part intrinsèque à l'écriture que la personne développe. Alors il y a accompagnement, parce que c'est seul, c'est pas esselé pour autant. Alors cet accompagnement effectivement c'est en tout cas, c'est sûrement pas du paternalisme. On veille, en tout cas, à ce que ce soit pas. Il y a une volonté, en tout cas, de ne pas être intrusif. Il n'y a pas une volonté non plus de quelqu'un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Personne ne sait. On est nous-mêmes en recherche avec l'artiste. La première année, d'ailleurs, on cherche à identifier la recherche, parce qu'un artiste arrive avec un dossier. voilà, une question, un enjeu de déplacement, ou bien un enjeu, je dirais, thématique ou théorique, genre pouvoir allier l'art et le politique, comment faire ça sans pour autant être dans le discours. C'est un enjeu poétique, voilà, tout simple. Mais au-delà de cet enjeu très générique, voilà, souvent la première année de recherche, ben, on cherche ensemble à définir plus précisément les enjeux pragmatiques de la recherche d'un artiste. Alors c'est en tout cas un accompagnement qui ne se veut pas intrusif, qui est beaucoup plutôt dans la question, dans le dialogue, dans le questionnement non pas du résultat qui nous est montré à ah oui, ça j'ai oublié de dire quand même qu'il y a une modalité dans l'accompagnement, donc on est deux, hein. Ça c'est déjà un élément important, il y a moi et Michel, ou Michel et moi on devrait dire plutôt, dans le sens où du coup il n'y a pas qu'une seule parole qui est donnée, on est au moins deux, et on a vraiment des caractères assez différents, des questionnements aussi différents, des regards différents, et en plus de donc il y a deux rendez-vous qui sont obligatoires à chaque résidence. C'est un rendez-vous en ouverture ou un peu avant le début d'une résidence où là on discute, voilà, c'est ce qu'on appelle réunion dramaturgique, bon ça fait un peu propre, mais voilà, c'est avant tout se poser la question. Mais si c'est la première étape, bon, mais là c'est plutôt on revoit un peu le dossier qui avait été déposé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, sont vraiment les enjeux pragmatiques de la recherche. Et puis en fait, de résidence en résidence, on est plutôt en train d'essayer de voir par rapport à la résidence précédente, par exemple, il y avait une question qui avait été posée de manière assez claire, mais dans la pratique des 2 à 3 semaines de recherche, en fait, cette question a complètement dévié. Parfois, en fait, simplement parce que, parce que la personne s'est trouvée confrontée à un mur et n'a pas su, je dirais, dénouer ou contourner le mur, et donc a dévié clairement sa question. Et donc, peut-être qu'on revient. Alors, du coup, est-ce que c'est pas plus intéressant de revenir à la question précédente, de la résidence précédente, ou bien la résidence avait fait émerger de nouveaux enjeux. Voilà. Enfin, donc on essaye en tout cas de cibler, pendant cette réunion dramaturgique, une forme de résumé de ce qui s'est passé depuis le début de la recherche, et qu'est-ce qui pourrait être encore un enjeu moteur pour les 2 à 3 semaines. Et on essaye quelque part un peu de circonscrire aussi l'enjeu de ces 2 à 3 semaines de travail. Et puis il y a un rendez-vous de fin de résidence où là surtout on demande toujours à l'artiste de surtout ne nous fait pas un spectacle, mais essaye de partager malgré tout avec nous ce qu'on a fini par appeler, là ça fait un an qu'on appelle ça comme ça, des concrétions. Pourquoi on appelle ça concrétion? Parce qu'en fait c'est pas justement créer un objet artistique qui est à partager avec potentiellement un public, mais plutôt une sédimentation qui s'est faite pendant les 2 à 3 semaines de travail et qui, quelque part, voilà, sont un objet concret, pas fini, surtout pas fini, mais qui permet en fait de créer un dialogue avec l'artiste qui est, mais voilà, la question de base pendant la réunion dramaturgique, c'était voilà, tel et tel point. Là, tu nous montres telle et telle concrétion. Comment est-ce que tu es arrivé en fait à ça, à partir des questions qu'on avait plus ou moins définies ensemble? Et c'est ça qui en fait nous intéresse dans la méthodologie d'accompagnement, c'est interroger le processus qui mène à non pas un résultat, mais des concrétions. Et puis, ouais, voilà. Bon, après, il y a aussi des mentors, parce que voilà, je trouve que c'est pas qu'on soit que, on est deux, mais que deux, c'est pas suffisant. Donc il y a des mentors qui viennent là 3 jours maximum pendant une recherche et qui apportent en fait leur expérience, leur point de vue, et c'est pas toujours des artistes, c'est parfois des philosophes, parfois c'est un boxeur qui vient en fait travailler avec une chorégraphe pour la mettre en échauffement différent. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle maintenant un troisième œil, parce qu'en fait on a remarqué qu'on a beau être deux, ces fins de résidence, au bout d'un certain temps, on n'a plus la virginité du regard, on n'est plus étranger. Et cette notion d'étranger, je pense qu'elle est importante dans l'accompagnement. Et donc voilà, il y a cette troisième regard qui, ce troisième œil qui vient régulièrement. Et puis il y a les moyens.
Oui, on va en parler après des moyens. Je pense que c'est effectivement parce que c'est pour moi une question très sensible. Donc on en parlera et c'est peut-être une question qu'on mettra à débattre entre nous dans un deuxième temps. J'aimerais juste là maintenant donner la parole à Valentine. Valentine, parce que votre réponse hein, à ma question était plus une question sur justement peut-être le détournement, la torsion, le travail de un travail d'appréhension du réel de façon finalement à la fois concrète comme quelque chose qui nous est donné à voir et à interroger en même temps. Et j'ai l'impression que dans votre expérience, ce qui vous passionne, c'est plutôt justement cet aller-retour, c'est-à-dire de comment, quelles sont nos perceptions du réel et comment nous approchons ces perceptions du réel, et que vous utilisez justement cette position de chercheuse en anthropologie pour questionner ce réel.
Oui, dans une mesure un petit peu plus schizophrénique que, je pense, les autres intervenants de cette table ronde. Moi, j'ai vraiment cette distinction entre la recherche scientifique, anthropologique d'un côté, et la recherche artistique, dramaturgique de l'autre. Et en même temps, c'est même pas une question d'aller-retour. Pour moi, c'est la symbiose entre ces deux éléments-là, mais qui est importante et que je recherche. Mais cette symbiose n'existe qu'au niveau très virtuel de mon intériorité, de ma pensée. C'est à l'intérieur de moi que cette symbiose se fait. Donc on pourra parler des différents espaces-temps de la recherche et des différents interlocuteurs aussi avec lesquels on est amené à travailler en fonction des contextes de la recherche qui sont dans la pratique très différents et des mondes très différents et très éloignés. Pour expliquer un petit peu ça, d'un côté, je travaille depuis une dizaine d'années chez les Mayas, chez un groupe Maya dans la forêt tropicale du Mexique, en tant qu'anthropologue. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'appréhension, la perception cognitive de l'espace. Donc, quelque chose qui peut avoir l'air a priori très éloigné d'un travail artistique ou d'une recherche artistique. Avant cela, j'ai aussi travaillé pendant 3 ans dans les villages traditionnels d'artistes traditionnels de rue en Inde, et notamment sur la magie traditionnelle de rue. Par ailleurs, mon travail de dramaturge se fait uniquement dans le cadre du mouvement de la magie nouvelle, donc que nous avons initié avec Raphaël Navarro, Clément de Bailleul il y a une quinzaine d'années, et dont les compagnies les plus actives, on va dire, seraient la compagnie 1420, la compagnie Monstre et la compagnie L'Absente. Et c'est précisément avec ces 3 compagnies que j'ai tendance à travailler le plus souvent. Ça n'est pas pour rien, puisque le langage de la magie nouvelle qu'on essaye d'utiliser, c'est le matériau de travail, c'est le réel, c'est-à-dire la définition de ce qu'on se fait de la réalité, de l'ici et maintenant, de la matérialité des choses. Or, cette appréhension du réel, elle est extrêmement variable en fonction des cultures, en fonction des pays, en fonction des langues qu'on parle. Et dans ce contexte, on a évidemment fait des recherches sur la question du magique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est magique pour une société ou pour un individu, ce qui est magique pour l'un n'étant pas forcément magique pour l'autre. On s'est rendu compte, par exemple, que chez les Mayas Lacandon, au Mexique, il y a des choses qui sont extrêmement magiques pour nous dans notre société. Enfin, je peux pas vous faire de démonstration ici, malheureusement, mais si je vous faisais léviter cette bouteille d'eau là sur la table, je pense que il y aurait un effet de sidération dans la salle. Si je fais la même chose au Mexique devant les Mayas, ça va se passer dans une indifférence absolue, c'est-à-dire qu'ils vont pas du tout trouver ça intéressant. Non pas qu'ils vont comprendre comment ça fonctionne ou qu'ils vont attribuer ça à des causalités surnaturelles ou quoi, mais il y a un vertige qui ne se passe pas au niveau de la représentation qu'ils se font de la réalité. Et notamment, je pense, moi j'attribue ça à un manque de résonance vis-à-vis de représentations générales que nous, dans notre société, on aurait de la verticalité, par exemple, de l'élévation divine, de la spiritualité, de la hiérarchie sociale qu'on va représenter en fonction de cette trame verticale, des émotions qui vont être représentées par des métaphores voilà, liées au plus bas, au plus haut, qui n'existent pas du tout dans cette société. Et donc, malgré tout, l'émotion magique qu'on pourrait avoir à voir léviter simplement cette bouteille d'eau dans un contexte extrêmement laïque et normal, ici et maintenant, ne se fait pas que parce qu'il y a un effet incompréhensible ou un truc, comme disait Jean-Michel tout à l'heure. Ça se fait aussi parce que, quelque part, il y a une définition consensuelle de la réalité entre vous et moi, qui n'est pas la même, évidemment, qui est variable en fonction des cultures. À l'inverse, en Inde, il y a des choses qui sont absolument bouleversantes dans certaines régions, qui sont pour nous des tours très, très simples, des tours presque de jonglage, d'où la magie est presque absente, comme la disparition d'une pièce dans la main, ou ce genre de petites choses qui peuvent être extrêmement impactantes, extrêmement fortes dans d'autres régions du monde. Finalement, ce travail sur le réel et sur le pacte de représentation, c'est-à-dire le consensus que l'auteur et le spectateur vont créer autour d'un objet de représentation, de figuration, que ce soit sur le plateau ou que ce soit dans une œuvre plastique ou dans un happening dans la rue ou quoi. Ce pacte de représentation, on l'écrit en magie nouvelle différemment pour chaque spectacle. Et ça fait partie intégrante de la dramaturgie de la magie nouvelle. Et cette question-là, elle est profondément anthropologique, en réalité. Donc la recherche anthropologique, elle est, on va dire, très fondamentale. Elle n'est pas appliquée directement dans la recherche artistique. Et en même temps, il y a une interconnexion qui nourrit l'imaginaire mutuellement, enfin, équitablement d'ailleurs, entre la recherche scientifique et la recherche artistique. Mais d'un point de vue extrêmement pratique, la recherche anthropologique, de mon côté, elle se fait avec des méthodes finalement très classiques. L'observation participante, l'enquête linguistique, les séjours de longue durée en immersion, dans un réseau académique qui est encore aujourd'hui toujours extrêmement déconnecté du réseau artistique. La recherche artistique, elle se fait dans des lieux spécifiques, dédiés à la culture, et elle peut se faire, c'est la spécificité de la conception magique et dramaturgique, en dehors ou sur le plateau, ou en aller-retour entre le plateau et le travail conceptuel qui n'a pas de lieu, lui, dédié, où ces lieux sont malheureusement encore trop rares aujourd'hui. Donc ces deux univers-là ces deux temps de recherche sont très, très déconnectés, et c'est plus un travail c'est plus l'œuvre à laquelle je me consacre, moi, c'est de faire en sorte que cela se rejoigne. Et je pense qu'il y a une ouverture par rapport à ça, c'est-à-dire que la recherche en art est relativement difficile, elle manque de moyens, elle manque de lieux, elle manque de reconnaissance et d'écoute. Oui, mais la recherche, le fait de travailler une recherche de type scientifique, quelle que soit la discipline, je pense, qui n'est pas d'application illustrative, par exemple, dans la recherche artistique, c'est quelque chose qui est très dur à faire comprendre. Nous, avec la compagnie 1420, on a presque besoin de créer à un moment une pièce courte qui permettait d'illustrer un des concepts qui est le concept de la vie après la mort chez les Mayas. On a décidé de travailler cette question-là d'un point de vue magique. Donc on a fait toute une pièce avec une danseuse qui laisse la trace de son corps dans l'espace, avec des procédés qu'on a inventés pour l'occasion. Et cette pièce-là, elle nous a souvent servi d'éléments pédagogiques pour expliquer le lien entre la recherche fondamentale anthropologique et la recherche artistique. Mais en réalité, on est presque dans l'ordre du jeu de mots ou de la métaphore, parce que l'infusion de ces deux recherches, elle se fait de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que dans l'illustration ou la reprise d'un élément qu'on aurait pioché dans un monde et qu'on aurait simplement transposé dans un autre univers. Mais néanmoins, j'ai l'impression que cette démarche, elle a été très bien accueillie. Par exemple, les recherches qu'on a faites en Inde ont été financées par les sources de financement public de la compagnie 1420 et avec le réseau des alliances françaises, etc. Et c'était des recherches artistiques et ethnographiques. Donc on appelait ça des missions artistiques et ethnographiques. Et on est parti en Inde avec moi, ethnologue. Donc moi, j'étais financée concrètement par des structures culturelles pour faire ces recherches, accompagnée d'artistes. Et puis tout ça se prenait place aussi dans un contexte d'échange de long terme qui a duré 3 ans entre la magie traditionnelle de rue indienne et la magie française. Et donc on a emmené aussi une dizaine de magiciens français en Inde qui ont participé aux recherches, mais qui ont aussi fait des spectacles là-bas, participé à des festivals. Et on a emmené à 3 reprises des magiciens indiens traditionnels de rue en France qui ont aussi participé à des festivals. On a été accueillis par Philippe de Coufflet à la Chaufferie. On a fait des croisements entre les chercheurs, les scientifiques, les magiciens des deux pays. Et ces recherches-là, elles ont été finalement très, très facilement, très bien accueillies et très facilement accueillies. Donc ce type de dynamique, il est nécessaire pour nous. Après, évidemment, chaque artiste, chaque chercheur va avoir sa propre spécificité. Je pense que la dynamique est plutôt favorable à ce genre d'échange. Maintenant, les cas sont tellement spécifiques et tellement uniques à chaque fois qu'il y a une absence de structure qui permet de rendre ce type de circulation évidente. Mais il y a quand même un intérêt et une écoute vis-à-vis de ce genre de démarche un petit peu schizophrénique.
On reviendra justement peut-être sur ce côté schizophrénique. Enfin, votre prise de parole est très importante parce que il y a la façon aussi dont on se met en recherche soi-même, c'est-à-dire dont on prend la décision de se mettre en recherche et du coup de peut-être justement de se déplacer soi-même et de se retrouver dans des situations et des contextes de recherche différents. Et puis en même temps, on entend bien aussi dans ce que vous dites qu'il y a des terrains et des manières de chercher qui sont extrêmement différentes, à la fois si on est dans la recherche en art et si on est dans la recherche scientifique. Et que là, la question justement du croisement, du dialogue, du couplage aussi entre des démarches artistiques et scientifiques est vraiment très porteur et très riche, et qu'il y a là aussi tout un terrain d'investigation sur lequel il faut vraiment se pencher, notamment ce que vous venez de raconter avec cet exemple sur les magiciens en Inde et les magiciens venant avec une autre forme de savoir. Et cet échange, c'est aussi des savoirs qui se transmettent, hein, et donc aussi des possibilités de faire évoluer aussi des savoirs dans leurs propres spécificités. Donc on reviendra sur ces questions aussi des représentations de la recherche qu'on peut avoir selon l'endroit où on se place. Mais j'aimerais bien là maintenant entendre Quintain sur sa propre expérience, que moi je considère comme une expérience d'artiste-chercheur, et que vous avez mené vous-même par vos propres moyens, ce qu'il faut aussi noter.
Ouais, moi j'ai envie de surtout parler d'où ça venait, en fait, cette envie de faire cette recherche, parce que, comme la plupart des artistes de cirque, aujourd'hui, je pense, on commence à 15 ans à sauter à la bascule, à faire du monocycle, après on fait des études supérieures, après on travaille beaucoup, on fait des créations, on tourne, et à un moment... c'est une dynamique qui s'installe où on est productif, mais pas vraiment à l'écoute de soi, sur comment on a envie de travailler, ce qu'on a envie de développer. Et voilà, moi je pense que ce moment-là était venu pour moi après des blessures et des ruptures avec des compagnies, enfin, la totale, pour me poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et comment j'ai envie d'évoluer. Et en gros, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour acheter du temps, vraiment du temps pour rechercher, libre de tout, mais pas en faisant ça seul dans mon grenier isolé, mais de faire l'enjeu comme si c'était une production que je montais, sauf qu'il n'y avait rien à la clé. Je veux dire, il n'y avait rien au final. Et Je dis production parce que même si c'est l'opposé d'une production, il n'y a pas un résultat. Mais il fallait quand même les lieux pour travailler. J'avais envie d'avoir le temps d'engager des gens aussi pour travailler avec moi. J'avais envie d'avoir des accompagnateurs qui m'accompagnent dans un processus comme ça. J'avais envie de vraiment me perdre dans la recherche. Et c'est un endroit très... ouais, pas facile. Enfin, de volontairement se perdre, c'est... à des moments, tu le regrettes. Enfin, je me souviens avoir écrit un dossier épais comme ça, je pense, pour pouvoir faire cette recherche. Et le jour que j'ai su que j'allais avoir les moyens, j'avais envie de rendre les moyens parce que je me sentais déjà angoissé sur le fait que j'allais vraiment me mettre à nu avec moi-même, de voir le bricoleur que je suis depuis toutes ces années dans le secteur, me mettre face à ça et le faire encore plus. Enfin, bon, là, c'est un peu des termes à la flamande que j'utilise pour décrire ma pratique. Mais en gros, c'était ça, cette envie d'acheter du temps, d'avoir de l'espace pour expérimenter, d'avoir un laboratoire qui creuse et qui creuse et qui creuse encore plus, sans... ouais, et qui se termine quand le temps est fini, quand les moyens sont finis, mais qui ne se termine pas par une conclusion, par un résultat. Et que le seul résultat palpable de cette recherche soit le dépôt, enfin la trace, le dépôt, enfin, presque comme la poussière qui reste dans le verre quand toute l'eau est évaporée, l'expérience qui du coup, l'expérience, la confiance, les méthodes pratiquées, qui change aujourd'hui ma façon de créer aussi, mais qui vient de cette recherche où, ouais, d'avoir le dépôt. Ouais, le dépôt, ça décrit bien la seule trace de cette recherche. Voilà. Est-ce que... J'ai perdu le fil, mais peut-être que tu peux m'aider.
Je vais peut-être récupérer le fil parce que tu expliquais très bien dans la conversation qu'on a eue ce matin aussi sur justement la question de la méthodologie, à quel point ce moment de recherche avait transformé aussi un rapport au travail, un rapport à la production aussi, et que finalement les traces, puisque tu as aussi, finalement il y a une trace aussi de cette recherche qui... est une trace qui se montre et qui est visible, que même ce format-là était aussi quelque chose de très différent, finalement, d'un objet qui serait un objet de création. Et dernier point, sur lequel tu n'as pas parlé encore, mais j'aimerais t'entendre, qui est cette distinction que tu faisais dans nos conversations entre la recherche et la recherche en création pour un spectacle ou avec une visée de production.
Ben, je vais peut-être répondre par la deuxième question d'abord. Une recherche au sein d'une création, il y a déjà un objectif en vue et ça compromet forcément la recherche. Ça indique déjà un chemin. Alors que moi, la recherche pure, comme de ce que je parlais, il n'y a pas ce guide. Il faut même le défendre. Je pense que c'est un terrain à barricader avec du fil barbelé, hein, et de garder ça en dehors de cet espace-là pour continuer à revendiquer le fait qu'on utilise des moyens, qu'on utilise le temps, qu'on déploie de l'énergie, l'énergie des autres. Sans que ça doit aboutir. Et ça, c'est très, très... c'est une question très difficile à expliquer parce que pour cette recherche, notamment, il y a eu des lieux qui m'ont accueilli, qui qui savent ce que c'est la pratique artistique, qui savent ce que c'est la création, mais dans beaucoup d'endroits, des centres culturels plus petits où on me regardait avec des grands yeux en disant « mais je ne m'en rendais pas compte qu'un artiste à un moment dans sa vie aurait besoin de ça ». Et je dis ben oui. Et du coup, ouais. Donc il faut le défendre, ce terrain, et il faut le protéger de trop tôt tirer des conclusions parce que c'est tentant de faire des conclusions de réduire faire une conclusion ou de faire mettre entre parenthèses ou faire des définitions de ce qu'on est en train de faire, mais dès qu'on le définit, qu'on le nomme trop et qu'on fait les conclusions, ben on est déjà ailleurs, on est en train de se trouver, on n'est plus en train de volontairement se perdre. C'est volontairement se perdre, et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout est là pour nous aider, les jeunes artistes, sur le chemin vers le succès. Mais je pense que c'est plutôt l'autre chemin qui manque, le courage de pouvoir se permettre de perdre, de faire des choses qui ne doivent pas plaire et de faire des choses qui peuvent être intéressantes à un niveau personnel. Pour l'artiste, c'est très égoïste ce que je dis, mais c'est comme ça. J'ai fait cette recherche pour moi, dans un premier temps, pas pour révolutionner le cirque ou pas pour révolutionner quoi que ce soit. Bon, je reste très modeste, je ne pense pas que j'y arriverai un jour. Pour moi, ça m'a appris beaucoup de choses et l'envie de continuer ce type de recherche où je redégagerai les choses pour avoir ce terrain libre. Et puis la première question que tu me posais, c'est une chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal à donner ça une place, parce qu'un des labos, c'était le 8e labo, j'avais invité Kenzo Tokioka avec son monocycle et ma femme Aline Vrecker, co-directrice de la compagnie, qui est plasticienne, à faire une recherche avec de l'encre et le monocycle. C'était une des idées que j'avais envie de mettre en physique. Donc, ce n'est pas une idée qu'on teste du jour au lendemain. C'est des choses... Il faut déjà avoir la place et y croire pour le faire. Et donc, on a cherché, comme ça, entre nous, avec cette encre et le monocycle. Et puis, on a présenté... Comme à chaque fin de résidence, on présentait des open labos. En gros, on disait, on a travaillé deux semaines chez vous, on ouvre la porte de l'endroit où on travaille, du labo, du studio, et vous pouvez venir voir, enfin, les gens de la direction ou quelques amis à nous, les mentors aussi qui m'accompagnaient pour la recherche, pour quelque part, pas présenter le travail, mais...
Le
rendre public, mais c'est comme on ouvre la porte du poulailler, mais les poules ne sont pas censées sortir, on peut entrer tout simplement. C'est quelque chose de très lointain. Les gens venaient observer ce qui se passait et pouvaient repartir. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a marqué ce labo, et on a eu... la proposition de présenter ce travail encore et encore et encore. C'était très difficile de donner ça une place, parce que pour moi, ça s'inscrivait pas du tout dans un processus de présentation. Et alors, si on présentait, c'était quoi ? Est-ce qu'on présentait de la recherche ? Est-ce qu'on rentrait dans un système de production, alors que je voulais garder ça en dehors ? C'était très difficile. En plus, je n'avais pas attendu à ça. Je l'avais tellement marqué, ce territoire, qu'il n'y avait pas la place pour ce genre de... Donc, j'ai donné ça un peu de temps jusqu'à ce que la recherche soit finie. Et puis, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce Labo 8 où il y a des gens qui ont regardé et continuent à regarder et qui ont envie de faire une suite. Mais ouais, j'avais le sentiment de trahir quelque chose au début. Mais bon, après, c'est aussi une chance de pouvoir développer un travail. Et seul critère, c'est que c'est une forme qu'on a envie de laisser ouverte, qui pour moi doit rester proche de ce que c'était initialement, une recherche, une forme ouverte. Donc si l'aventure continue avec ce projet, ça doit rester une forme ouverte. Et il ne peut pas se figer dans une forme, je pense. Voilà.
Alors, moi, j'aimerais en fait mettre en exergue deux sujets par rapport à ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est d'abord en fait cette revendication, comme tu le dis, presque en disant qu'il faudrait barricader ce terrain de recherche et mettre des fils barbelés autour. Mais parce que, en fait, la question, c'est aussi de préserver en fait la valeur auto-réflexive et de la recherche comme quelque chose qui se vaut en soi et qui justement est quelque chose qui n'est pas quantifiable ou calculable en termes de retour direct ou de retour sur investissement. Et ma question justement est sur ce terme de recherche qui vient se poser aujourd'hui dans notre monde culturel et qui est un monde où justement la recherche scientifique s'appauvrit de plus en plus faute de moyens financiers. C'est pareil pour les moyens de production. Et cette nécessité en fait d'un capital symbolique de construire son parcours artistique ou son parcours de chercheur sur un capital symbolique, comment faire pour justement lui trouver des lieux qui soient en dehors justement des impératifs du marché, des impératifs qui justement sont de plus en plus sur le projet, sur la projection, sur le fait aussi de récupérer hein, ces valeurs de la création. Donc, je ne sais pas comment vous voulez réagir les uns et les autres à ces questions-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le lieu de la recherche comme un lieu d'empuissancement, en fait, d'un endroit qu'on pourrait protéger, valoriser, faire grandir, mais qui... et aussi un temps, un temps illimité, un temps aussi de la décélération par rapport à des modalités qui sont des modalités de production très réelles. Et ça, c'est aussi bien dans un univers scientifique que dans un univers artistique.
Oui, pour rebondir par rapport à ça, puis un petit peu par rapport à ce que Jean-Michel a dit ce matin sur les utopies, et le fait de déconstruire les concepts, je pense que la recherche aujourd'hui et l'importance que ce mot-là a pris dans la pratique artistique et dans le milieu, même artistique en général, et particulièrement dans le spectacle vivant, on est toujours en train d'essayer de répondre finalement à la question de Gabo qui posait dans son manifeste réaliste en 1920 la question « Comment est-ce que l'art contribue à l'époque présente de l'histoire de l'homme ?» Et finalement, moi, j'ai l'impression de voir une continuité avec cette émergence de la question de la recherche, avec ce qui s'est passé à partir même des années, déjà dans les années 20, mais à partir des années 50 et dans les années 70, où on a vu un appariement de l'univers artistique avec le milieu ouvrier, et qu'à cette époque-là, les lieux d'art, c'était des friches industrielles qui étaient réinvesties. On a eu les hangars, les fabriques, les ateliers. Les artistes se définissaient très volontiers alors comme des artisans. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Michel Butor. On avait écrit avec Raphaël Navarro et Clément de Bailleul une pièce qui a d'ailleurs été créée ici à la Villette, qui s'appelait Poèmes jonglés. Et puis on a écrit un livre ensuite ensemble. Et Michel Butor, il avait tous les jours, il se levait et il enfilait un bleu de travail pour écrire ses poèmes. Et il travaillait sur une table de boulanger. Et c'était la table sur laquelle il écrivait. Il ne pouvait pas écrire sur un bureau. Donc il y avait quelque chose d'une espèce de volonté, j'ai l'impression, presque symbolique, de dire les artistes sont utiles à la société et quelque part ils sont inclus dans la société civile. Ils sont, il y avait une espèce d'effet de réel de s'allier aussi à ces territoires, à ces friches industrielles, à cet univers du monde ouvrier. Et quelque part, j'ai l'impression que aujourd'hui, les lieux artistiques s'appellent très volontiers des laboratoires, des centres de recherche sûrs. On a le laboratoire du geste, laboratoire du mouvement, laboratoire chorégraphique, théâtre laboratoire, bureau d'art et de recherche. Les artistes parlent de plus en plus volontiers de recherche artistique. C'est devenu obligatoire dans les écoles supérieures d'art. La Biennale de théâtre à Venise en 2013 avait pour symbole un Erlenmeyer, vous savez, cette espèce d'instrument pour chimiste. C'était le symbole de la Biennale de théâtre. J'ai l'impression qu'on a une sorte de prolongement et de nouveau, les artistes essayent d'investir un territoire symbolique qui est très, très lié à la désacralisation de la place de l'artiste et aussi à une forme peut-être de laïcisation du rôle de l'artiste et de marquer la place de l'artiste et du milieu artistique dans la société civile et son utilité directe par rapport au territoire.
Je dirais utilité directe, mais aussi utilité critique.
Absolument. Hein,
parce que dans cette volonté, justement, dans une économie de l'attention cherche toujours à capter plus, à prendre plus de notre temps de réflexion, de notre temps d'attention aussi, peut-être, ou même de tromper nos états d'alerte. Cette importance de la décélération, elle peut aussi être extrêmement politique. Et justement, il me semble, dans ce que vous décrivez de l'attitude de Michel Butor qui endosse son bleu de travail et qui va à sa table pour travailler, il y a aussi dans un paradoxe qui est celui de mettre la question de la recherche en rapport avec la question du travail. Mais là, je parle bien du travail en tant que force de travail, en tant que question du travail, et que ce qui m'intéresse dans des expériences, notamment la vôtre à l'AEL, c'est qu'est-ce que ça crée en termes de croisement, de synergie, de porosité avec des partenaires, c'est-à-dire comment dans votre lieu vous pouvez aussi interpeller un milieu par rapport justement à une manière d'évaluer aussi un artiste, parce qu'on sait que c'est très difficile aussi de trouver ces temps où on s'extrait justement des exigences du marché, de la loi du projet, du fait qu'il faut travailler vite, que en tant qu'artiste on est aussi sur l'aide au projet, sur la façon dont il faut produire du spectacle pour obtenir du financement. Donc comment justement on peut négocier ces espaces d'illimitation, de décélération, de jachère, et les mettre comme ça en dialogue et en critique vis-à-vis d'autres lieux ou d'autres interlocuteurs.
D'abord, je pense qu'il y a, comme disait Quentin, il y a d'abord un truc de ce propre paradigme en tant qu'artiste. Hein. On est quand même dans une société qui nous éduque à produire et à faire bien, à avoir des bonnes cotes. L'erreur, c'est négatif. Je pense qu'il y a déjà toute une série là de choses, en tout cas dans les premières résidences de recherche. Ça, c'est vraiment un exercice qu'on doit faire ensemble, à quitter la question de la culpabilité, donc perdre du temps, oui, c'est bien, des erreurs, c'est bien. Il y a aussi la question de la pudeur qu'on doit casser, c'est-à-dire montre-nous tes poubelles, n'essaye pas de nous plaire, c'est pas ça l'objectif. Je pense que c'est vraiment des enjeux fondamentaux pour une pratique de la recherche. Après, maintenant, le cadre. C'est clair qu'on n'est pas, on ne cherche pas des lieux hors cadre, par contre. Ça, c'est clair. On essaye, comme dit Michel, de gangréner le système. Le développement de partenariats, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'une résidence à l'autre, il faut que ce soit un autre espace. Du coup, on a quatre espaces propres. Mais ça ne suffit pas pour créer des tournantes. Du coup, on a effectivement développé des partenariats. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce que il y a d'abord une direction, c'est une personne, c'est souvent une personne, qui est intéressée par cette démarche de la recherche, d'ouverture, etc., de décloisonnement, de déformatage, qui a aussi un problème avec le système en tant que, qu'espace de production. Mais ça prend du temps dans le sens où, à un moment donné, il y a une direction qui a cette envie-là. On essaie de se rencontrer. Est-ce qu'on se comprend bien sur cet enjeu de recherche? Et puis après, il faut créer des espaces. Des espaces dans un lieu de travail qui fonctionne aussi dans la productivité. Il faut que ce soit rentable, ce lieu. Parfois, on le paye. Ou bien, c'est la ville qui te le file. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Or, nous, quand ces trois semaines-là, elles sont fermées au public. Il n'y a pas d'ouverture au public. On cherche aussi des lieux où il n'y a pas de gradins. Parce que comme il y a une pensée de non-obligation de résultat, si un artiste se trouve dans un plateau avec un gradin, il y a quand même voilà, cette idée malgré tout de produit fini. Voilà, c'est vraiment des éléments compliqués ou complexes à trouver. Il faut aussi que ce soit un espace qui respire, hein, parce que certains espaces, enfin certains lieux ont des, effectivement, mais c'est des caves où il n'y a pas de gradin. C'est pas un espace qui ouvre un peu l'esprit. Donc voilà, y a beaucoup d'éléments comme ça qui font que c'est assez complexe. Après, il y a le politique. Et je pense qu'il y a vraiment un truc, là c'est de la philosophie politique, c'est que le terme service public n'existe plus. Et que même, en fait, l'argent public qui est donné, il doit être, vous parlez de retour sur investissement, et cette pensée-là, dans le monde politique, elle existe. Quoi, hein. Je veux dire, c'est de l'argent public, donc il faut que ça retourne au public. Ça, c'est un ministre PS qui m'a sorti ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc déjà. Bref, ça a été compliqué, mais je pense qu'on a eu de la chance, en fait, par rapport au monde politique. Il faut dire, en fait, que ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'aile, en fait, on n'accompagne que des tout jeunes artistes, donc qui ont maximum 2 productions propres à leur effectif. Et il y avait un problème en 2007, en Belgique francophone, où les théâtres ne savaient pas quoi faire avec tous ces jeunes qui sortent des écoles. Il y a 5 écoles d'art en Belgique francophone, art de la scène. T'as pas quoi foutre avec tous ces gens, parce qu'effectivement, ils demandent de l'argent, mais en même temps, est-ce qu'ils valent quelque chose? Est-ce qu'ils ont vraiment une expérience? Et puis, l'aile, parce que bon, ça faisait déjà 18 ans que l'aile existait, avait un peu cette démarche-là d'accompagner des jeunes artistes. Mais Michel en avait marre, en fait, de mettre l'artiste dans des conditions de... la première, c'est cette date-là, tu dois avoir fini cette date-là. Elle avait déjà, en fait, elle avait déjà... Parce que, par exemple, c'est vraiment une petite histoire, je suis très bavard, je suis désolé. Mais une petite histoire, mais pour montrer qu'en fait, elle avait déjà une critique du système, dans le sens où, à la générale, quand la générale était une catastrophe, elle posait clairement à l'artiste, tu sais, si demain, tu n'as pas envie de montrer, c'est pas grave. On annule, c'est tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est fondamental, ça. Hein, je veux dire, parce que combien d'artistes se sont, quelque part, méchamment cassé la gueule, et bêtement en fait cassé la gueule, parce qu'il y avait cet impératif là d'une première, et que tous les producteurs voilà, et ça, je trouve que c'est très pernicieux en fait. Donc la recherche, c'est un élément qui a à remettre en question dans l'ensemble du système, mais qui, en tout cas, c'est ce qu'on est tout à l'heure, Jean-Guy parlait de la question du pouvoir, et ça c'est clair que c'est quelque chose qu'on essaie d'apporter en dehors du cadre de la recherche. Mais toi, artiste, après, quand tu sors, comment tu parles avec tes interlocuteurs? Et tes interlocuteurs, c'est pas... Il y a un truc à décliver au niveau de la notion de pouvoir qui est presque indécent, parce qu'il y a quand même des directeurs qui proposent des coproductions à un montant qui est leur salaire en fait mensuel. Alors, c'est horrible ce que je viens de dire. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a une indécence derrière dans le système. Ah bon, bref, je me tiens un peu
carte. Non, je ne pense pas, au contraire. Non, je ne pense pas, au contraire. Et sur cette question, justement, du rapport entre ce qu'on défend et les partenaires qu'on trouve, je voudrais vous entendre aussi Quintin, parce que tout à l'heure, en aparté, vous disiez, mais c'est moi qui me suis autoproduit, en fait, sur ce moment spécifique.
Oui, aussi, parce que... Mais peut-être, je voulais, aussi, par rapport à ce que disait Olivier, c'est pas une critique sur un système ou quoi. Je pense que quand on monte une production, on a besoin de partenaires, on travaille vers une première. C'est ça, le trajet d'une création, d'une production, de spectacle classique, normal. Enfin, je pense que c'est très bien que tout ça existe et que c'est des systèmes justes. Mais à côté de ça, il faut pouvoir, comme artiste, défendre cet espace où il y a pas ça. Je pense pas qu'il faut enlever la pression du côté de la réelle production, parce que c'est impossible. Je pense qu'il faut juste, pour soi, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire pour moi, investir dans un espace où il n'y a pas ce rapport-là. Après, comment j'ai financé ce projet, une partie en autoproduction, j'ai fait le calcul de ce que je pensais avoir besoin pour pouvoir travailler pendant un an avec les 10 résidences, inviter des artistes. Et puis après, la partie qui me manquait, j'ai trouvé une bourse pour ça sur Bruxelles, qui est une bourse pour un trajet d'artiste. Ils en donnent 4 ou 5 comme ça par an à des photographes, des musiciens, des danseurs. Mais c'est une bourse de trajet, c'était le projet en soi, comme je l'ai écrit, sur la recherche, les lieux, tout ça c'était ouvert. J'ai moi-même formulé le modèle de recherche que je voulais réaliser. Ce n'était pas une application sur un format qui existait. Voilà. Après, les lieux où je travaillais, je n'ai pas eu des retours, je n'ai pas eu des fonds pour ça. Donc, voilà, c'est important mais difficile d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans la recherche.
Oui, ça demande aussi la mise en place d'une stratégie. Hein. Quelquefois, vous disiez gangréner le système ou avoir un cheval de Troie comme le monolithe, par exemple. Est-ce que c'est aussi une solution pour vous essentielle? C'est la solution que vous avez trouvée aussi pour apporter cette question et la déplacer de façon itinérante?
Oui, on a conçu ce laboratoire itinérant de recherche sur la magie avec la compagnie 1420. Ça faisait partie de la production on l'a greffé, la fabrication du... Donc ce lieu s'appelle le Monolithe et c'est un théâtre itinérant qui peut accueillir 80 à 120 personnes et qui est spécifiquement dédié aux techniques de la magie qui sont très particulières et notamment dans les conditions de frontalité. Et voilà, il y a tout un dispositif de boîte noire qui est fondamental dans la technique de la magie. J'ai l'impression que c'est une tendance en magie, puisque Yann Frisch est lui-même en train de créer un camion théâtre itinérant qui reprend finalement à peu près les mêmes proportions que le monolithe et qui est un endroit qui va lui permettre à la fois d'expérimenter, à la fois de diffuser en dehors, enfin, parallèlement, on va dire, au réseau français classique. Après, on a aussi développé, on a vraiment eu besoin de développer, en partenariat avec le Centre national des arts du cirque, un lieu dédié à la recherche, un lieu fixe cette fois. On avait besoin de poser nos valises. Et on a, depuis plusieurs années, on est en train d'élaborer un centre de recherche de magie au Centre national des arts du cirque. Donc là, dans les nouveaux bâtiments, il y a une boîte noire qui est dédiée à la magie et qui a été... aussi cofinancé par les structures territoriales autour du Centre national des arts du cirque, spécifiquement pour pouvoir développer des nouvelles techniques en magie, parce qu'on a non seulement la recherche artistique, mais on a aussi la recherche de conception. Ce sont deux recherches qui sont, alors elles pour le coup, qui se jouent beaucoup en aller-retour. La recherche artistique appelant souvent la conception complètement inédite d'un système magique qui peut être très simple et très léger et très peu coûteux et qui peut aussi prendre des proportions et financières et techniques assez spectaculaires. Donc dans tous les cas, on a vraiment eu besoin de poser cette coquille de création pour l'instant au Centre national des arts du cirque, et on est ravis. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir permettre à plein de compagnies de magie nouvelle de venir prendre du temps de recherche en dehors justement du circuit dont on parle, de cette obligation de rendement ou de cette obligation de création à la clé, que ce soit pour la recherche artistique ou pour la conception à proprement parler. Donc là, il y a tous les dispositifs techniques à disposition des compagnies qui pourront être accueillies par ce lieu.
Merci. On a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle aussi pour les 15 minutes restantes, si vous avez envie de poser des questions directement aux intervenants. Je vois qu'il y a une question ici.
Si juste vous pouvez vous présenter rapidement quand vous posez une question, qu'on sache qui parle.
Bonjour, je suis Nettie de la compagnie Z Machine et ex-lauréate Circus Next aussi. J'avais une question plus particulièrement pour Quintin, je ne sais pas si je prononce bien ton nom, parce que pour les gens peut-être qui comme moi ne connaissent pas ton travail, enfin, j'ai bien compris ta démarche dont je suis assez admirative, mais qu'est-ce que tu faisais concrètement comme recherche ou sur quel... Enfin voilà, tu as donné juste l'exemple du monocycle qui est assez concret, mais est-ce que tu aurais d'autres exemples pour savoir comment tu as monté tout ce dossier ?
Alors, qu'est-ce que je faisais concrètement comme recherche ? C'est une question que je me suis posée aussi. j'avais des gens pour m'aider à poser cette question-là. J'avais 3 mentors. Il y avait Michel Bernard, un dramaturge, Alain Platel, un chorégraphe belge, et encore Guy Dermeul, un auteur et metteur en scène aussi. Ces gens-là étaient mes mentors, ils m'accompagnaient dans le questionnement. Et j'avais plein de futilités en tête sur quoi je voulais travailler. Je n'arrivais pas à creuser réellement sur papier en amont. Donc, ils m'ont un peu décomplexé en disant voilà, commence à travailler et ce dont tu veux parler, ça va ressurgir au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? On a commencé par avoir des jeux d'association de mots, tout simplement. Partir d'une feuille blanche, association de mots, on termine avec 3 mots, on développe un travail autour de ce mot-là. Après, j'avais plein de méthodes où je sélectionnais un bout de la recherche que je reprenais le lendemain. Parfois, je développais une forme en plus, puis je supprimais. Enfin, pour toujours faire, sur le travail d'une semaine, d'élaborer... En fait... pour voir ce qui vient des gens avec qui je travaillais et de moi sur base d'un prétexte. Je voulais ouvrir un maximum possible et c'est en fait ça que je voulais. Je cherchais, je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être que je savais déjà ce que je cherchais, mais je voulais d'abord le trouver pour savoir que c'était ça que je cherchais. Je pense que c'est ça la recherche et... concrètement aussi le fait de travailler, parce que donc, je travaillais chaque résidence avec des autres artistes, je ne reprenais pas le travail avec les gens à l'autre résidence. Entre les résidences, j'avais le temps de digérer ce qui s'était passé et d'aligner mes envies. S'il y avait des choses que j'avais développées avec des gens, de les reprendre pour l'autre résidence, mais alors recommencer de zéro avec des nouveaux corps. Ou laisser tomber et partir sur ce qui m'était venu en voyant ce que j'avais réalisé avec eux dans la résidence précédente. Vers la fin, je commençais à avoir le souci que je prenais trop plaisir à concrétiser et je me suis la résidence avec l'encre où enfin, évidemment finalement c'est devenu quelque chose, et puis il y en a encore une autre que je me disais oh, si maintenant j'avais encore 3 semaines, je ferais un spectacle avec ces gens, ce qui n'était pas le but, ce qui n'était pas possible, parce que c'était des gens qui travaillaient dans d'autres compagnies, qui avaient juste le temps pour passer une semaine avec moi, Mais à part ça, pas le temps de s'investir dans une aventure. Et heureusement, et c'est là que c'était intéressant, c'était qu'on devient qu'un meilleur chercheur en cherchant, qu'on devient qu'un meilleur danseur en dansant, un meilleur metteur en scène en mettant en scène. Je pense que c'est juste la pratique qui était importante pour ça, de me mettre en face. Et oui, c'était des artistes de cirque, donc il y a eu des saltos et des poiriers et le vocabulaire propre à des corps de cirque. Mais on partait jamais de ça. Je pense que c'est très présent dans des corps de cirque d'avoir tout ça prêt et dans un mental aussi de vouloir voir les choses d'un autre angle de vue. Mais on n'est jamais parti d'une technique de cirque. Et la plupart des résidences de recherche, on s'est même pas approché d'une technique.
Voilà. Bonjour. Oh, wow. moi, c'est Sébastien. Je suis chercheur à l'Université d'Utrecht et je suis aussi artiste de cirque et dramaturge. Moi, j'avais une question justement sur le mot recherche. Et pour moi, l'analogie entre la recherche artistique puis la recherche, mettons, académique, intellectuelle, ça finit avec le fait que à l'université, ce qui est produit, c'est, mettons, on peut partager ça, c'est publié, puis ça existe comme objet extérieur à son propre être, à son propre expérience. Et avec la recherche artistique, il y a quand même une production de savoir, mais je me demande si vous trouvez ça aussi important sans tomber dans un cadre, mettons, productif, de rendre quelque chose extérieur à soi-même à la fin de ou pendant. C'est clair la question ?
Oui, c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Et c'est une question aussi qu'on n'a pas forcément abordée, qui est aussi celle de l'évaluation des savoirs, de comment se quantifie, s'évaluent les savoirs. Alors c'est vrai que au niveau de l'écrit ou enfin dans différentes sciences, il y a différentes méthodologies et il y a aussi différentes formes de publication ou de résultats, c'est vrai. On avait la discussion ce matin aussi avec Quintin sur la question des savoirs qui sont des savoirs implicites, notamment les savoirs sur le corps, sur lesquels c'est beaucoup plus complexe en fait de mettre à jour ces savoirs-là. Moi, j'aimerais bien vous entendre peut-être lui répondre aussi tous les trois de vos endroits à chacun. Par rapport à cette question, mais moi personnellement, c'est une question qui m'intéresse en travaillant sur notamment le champ chorégraphique, de mettre en valeur aussi des savoirs qui sont des savoirs produits par l'expérience du corps et qui sont aussi ceux qu'on peut, voilà, qu'on ne peut pas finalement appréhender simplement juste d'une façon avec une visée qui serait une visée tout à fait intellectuelle, mais de comment ces savoirs-là, on peut les laisser émerger pour ce qu'ils sont. Et ça, pour moi, c'est justement très, très important aussi de l'explicitation de ce qui se met en recherche dans la pratique. Mais voilà, ça, c'est une de mes réponses, mais je vais laisser les autres répondre.
La question du partage, alors, on va dire ça comme ça. Mais ça dépend en fait de toute recherche, de tout chercheur, de ses désirs déjà. Et puis à un moment donné, c'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas de public à l'aile, ça c'est sûr, mais c'est clair que par rapport à certains partenaires qui aimeraient bien que machin, mais aussi par rapport à certaines recherches ou chercheurs, on sent qu'à un moment donné, qu'il y a un enjeu de partage avec un public, ça devient nécessaire d'une certaine manière parce que on sent que l'artiste, en fait, il ouvre des portes, il ouvre des portes, il ouvre des portes, il ouvre des portes. Et puis, à un moment donné, il est en train de se noyer. En fait. Et quelque part, comment lui dire, tiens, en fait, pour la prochaine résidence, il y aura peut-être une sortie publique à la fin. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça pourrait être intéressant ? Oui, ok. Bah alors, du coup, on essaye de mettre ça en place. Et du coup, l'enjeu de la résidence de recherche à ce moment-là sera précisément mais quelle concrétion mais sur tout le parcours de recherche que j'ai fait, j'aurai envie de partager avec un public. Et après, on met ça en question. Et puis, on bazarde tout, et quelque part, et on reprend, si tu veux, la recherche sur la résidence d'après. Après, il y a des recherches qui se terminent, parce que l'artiste a l'impression d'avoir creusé un peu tous les endroits qu'il avait envie de creuser, et vient l'envie de produire quelque chose à partir de tout ce qu'il a ou elle a amassé. Et ça, on accompagne, évidemment, ce processus-là. Et certains, ce sera rien en tant qu'objet artistique, mais ce sera peut-être un objet livresque, ça aussi, on a accompagné. Alors, pour l'instant, jamais d'un point de vue strict de mise en perspective du processus de recherche, enfin, donc une espèce de concrétion un peu théorique sur qu'est-ce qu'un processus de recherche, une mise en recherche par rapport à un artiste. On l'a fait pour nos 25 ans, mais par rapport à un artiste chercheur, on ne l'a pas encore fait. Non. Mais on n'est absolument pas fermé à.
Je pense que c'est une question très intéressante, parce qu'il y a aussi des similitudes évidentes entre le milieu académique et le milieu artistique en ce moment, et ses financements. Pardon. Et il y a aussi cette obligation de résultat dans le milieu scientifique, avec la tendance à vouloir nous faire publier le plus possible, donner le plus possible de conférences, et la pression sur la visibilité aussi, c'est le grand mot de la recherche. Il faut visibiliser les résultats de la recherche, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de scientifiques se tournent vers le milieu artistique en espérant quelque part trouver une sorte de plateforme qui va donner accès, qui va donner de la visibilité et du public à des recherches qui sont avant tout destinées quand même à un univers assez fermé, finalement, qui est un univers de spécialistes, même si ces recherches peuvent avoir des ouvertures très générales. Cette question du résultat, pardon, je cherche une citation dans ma tête, donc je crois qu'elle est perdue définitivement, malheureusement. Mais oui, en tout cas, je vais donner la parole à Quentin. Essayez de retrouver cette citation, mais en effet, il y a ce parallèle qui est intéressant aussi, de toute façon, sur la méthode et comment accéder aux moyens. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus admis dans le milieu de la recherche que le chercheur soit dans un état de recherche permanente, et que finalement, même le rendu, qu'il prenne la forme d'une publication, voilà, c'est une étape. Alors que dans la recherche artistique, on est quand même encore plus ancré autour de la production finale, qui serait le spectacle ou l'œuvre plastique, la performance, etc., qui, elle, symboliserait quand même une sorte de finalité. Alors que dans la recherche scientifique, on a plus un accompagnement d'une pensée qui va se développer en fait le long de toute une vie, et dont les rendements vont être des sortes de balises en fait, sur un parcours intellectuel et biographique très long. Et je vais peut-être faire une petite parenthèse, mais je pense qu'aujourd'hui, là, moi, je vois quand même un léger risque dans la pression qu'on met dans le spectacle vivant, et particulièrement dans les arts du cirque, sur la question de la dramaturgie, qui est une question absolument centrale. Mais j'ai parfois l'impression qu'on exige maintenant, souvent, pratiquement à l'avance, d'un artiste, d'un auteur, d'une compagnie, qu'elle nous livre les clés de la dramaturgie, de la création en cours, avant même de l'avoir initiée. Et là, on se rapproche plus d'une recherche qui serait une recherche inductive, si on fait un parallèle avec la recherche académique scientifique. Alors que le chercheur dans le monde académique, va plutôt se baser sur la recherche hypothésico-déductive, c'est-à-dire partir avec, évidemment, une idée, mais avec la possibilité d'être contredit par les données qu'il va accumuler dans sa recherche.
Ouais, moi, sur ma recherche, c'est une question que j'ai encore reçue aussi quand je parlais de la recherche des gens dans le public. Mais quel est le retour, alors, finalement, ou quel est le résultat palpable, ou quelle est la... Et il n'y en a pas, en fait. Il y a juste ce dépôt quelque part dans mes méthodes de travail et l'expérience que j'ai partagée avec les gens qui étaient là à ce moment-là, et c'est tout. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui suivait du début à la fin, qui documentait, qui en faisait un livre. Je pense que ça, tout ça aurait été très intéressant, mais je n'avais pas les moyens pour ça. Et c'est déjà un projet en soi de faire ce genre de documentation sur une recherche. Je trouve que c'est très intéressant. Mais là, il n'y avait pas la place pour ça dans cette recherche-là. Par contre, je prévois de mettre ça en place pour la prochaine recherche en 2018. Donc, ouais, après, j'ai quand même filmé beaucoup. J'ai eu aussi quelques stagiaires sur la recherche qui ont interviewé les participants, qui m'ont interviewé moi, qui ont noté tous les textes, qui ont observé les répétitions ou la recherche. Donc il y a des traces de ce genre, ils existent, mais ça n'a pas été publié ou formulé. Je pense même le fait que ces gens étaient là pour noter, pour filmer, pour questionner, c'est ça qui faisait avancer le travail. Le fait d'avoir quelqu'un en face de toi qui te pose des questions sur ce que tu es en train de faire aide à formuler et à avancer. Mais tout ça n'était pas non plus dans le but d'en faire quelque chose. Voilà. Ça pourrait un jour, mais...
Oui, on va continuer les questions-réponses, ce jeu peut-être après, mais on va laisser la suite de la matinée se dérouler. Et donc je vous remercie tous les trois. Merci pour la richesse de vos interventions et je redonne la parole à Agathe pour la suite.